bonjour pour tous. Mourir ne signifie pas d'office pénétrer dans le pays angélique des bisounours. Mais il est important d'insister sur ce point. Quoi qu'il advienne, rien n'est figé pour l'éternité. Exactement comme sur Terre, où nos instants de bonheur et les défis que l'on rencontre sont des passages menant vers des transformations nécessaires à une plus grande sérénité. Comme dans n'importe quelle expérience de la vie, quelle que soit la façon dont on arrive dans la mort, à tout moment, il est possible de prendre conscience de ses erreurs et de se transformer. Mourir est un moment de métamorphose, le passage d'un état matériel à un état immatériel, avec nos qualités et nos défauts. Des défunts arrivent de l'autre côté, confus, comme il existe des gens vivants dans la confusion. D'autres sont lucides et joyeux dans leur vie terrestre et naissent à la mort curieux et excités. Chaque cas est unique et évolue dans le temps. C'est comme à la naissance d'un enfant. Il est impossible d'affirmer au départ que celui-ci aura une vie forcément merveilleuse. Cela dépendra des choix qu'il effectuera face aux événements rencontrés sur son parcours. En revanche, on peut dire qu'en travaillant sur soi, en s'ouvrant et en étant dans l'espérance, l'enfant, en grandissant, pourra apprendre à se connecter à ses guides, à connaître la nature de la réalité. Alors oui, dans ces conditions, sa vie pourra être tournée vers la lumière. Mais rien n'est automatique et identique pour tous les bébés qui arrivent. Oui, vu sous cet angle, c'est l'évidence même. Il importe de retenir que ce n'est pas la mort qui procure la paix intérieure, la sérénité et la lumière. Ces états d'être se développent tout au long de la vie au quotidien. La seule chose qui meurt vraiment est le corps physique. Nos pensées et nos émotions demeurent telles quelles. Elles ne se transforment que par un effort conscient et non par le simple fait de mourir. Cette remarque me semble essentielle. On se transforme, on évolue par un effort conscient et non par le simple fait de mourir. À ce sujet, j'ai toujours été surpris que des personnes aillent consulter des médiums dans l'espoir d'obtenir de leurs défunts des réponses portant sur leur choix de vie. Cela fait hurler la plupart des médiums que je connais. La mort ne transforme pas les défunts en guides spirituels. C'est un long cheminement qui y conduit. Si, de son vivant, vous alliez régulièrement demander conseil à votre père et que celui-ci vous donnait des réponses éclairées et sages, cela pourra toujours être le cas après sa mort. Il convient alors d'être vigilant sur la manière dont ces conseils vous parviendront. Si c'est grâce à un médium, attention, un médium est un intermédiaire, un humain, une personne faillible. Il peut se tromper, mal comprendre ce que le défunt lui dit, mal interpréter ou même projeter son inconscient sans s'en rendre compte. Donc, prudence. Ne pas tout prendre pour argent comptant. Si, en revanche, de son vivant, le défunt n'était pas forcément de bons conseils, la mort ne l'a pas rendu nécessairement plus clairvoyant. Il peut être autant dans le flou qu'il l'était avant son décès, incompétent à vous éclairer. La mort ne nous donne pas systématiquement accès à toutes les connaissances de l'univers. Et si vous n'aviez pas ce genre de discussion avec votre proche avant, pourquoi chercher à les avoir une fois qu'il est décédé? Nos défunts peuvent devenir des anges gardiens, des esprits protecteurs, mais à l'issue de leur propre évolution. Il est capital de comprendre qu'ils ne peuvent jouer ce rôle que s'ils se sont élevés, c'est-à-dire s'ils sont parvenus à se libérer d'un certain nombre de leurs attaches émotionnelles. Il faut les laisser monter, se détacher des modes de fonctionnement psychologique liés à leur existence terrestre pour qu'ils puissent avoir un vrai recul et ainsi être en mesure de nous éclairer. Comme un psy qui, pour prendre en charge ses patients, devra avoir opéré un vrai travail thérapeutique sur lui-même afin de ne pas confondre ses propres émotions et désirs avec ceux des personnes qui viendront le consulter et, ainsi, ne pas orienter les conseils qu'il donne en fonction de ses propres pulsions inconscientes. Je pense que les défunts deviennent éventuellement des anges gardiens ou des guides seulement après avoir achevé une certaine évolution. Il est faux de croire que les défunts se transforment automatiquement en esprits protecteurs. Après leur mort, leur rôle demeure le même que le nôtre. Continuer à ouvrir leur conscience. Tout comme nous, cela les occupe pleinement. Ce rôle n'est pas différent de celui qu'ils avaient sur Terre vis-à-vis de nous. Ils peuvent certainement nous aider momentanément dans leur champ de compétences, mais leur mandat n'est pas d'être à notre service. Mais alors, anges et guides existent-ils?
Oui.
Mais ils sont sur un plan de conscience beaucoup plus élevé et ont pour mandat d'aider les êtres incarnés. Ces guides ont pu vivre des incarnations, mais cette étape est terminée pour eux. Ils ne sont plus impliqués dans leur monde mental et émotionnel. Ils peuvent donc avoir une vision beaucoup plus vaste, ce que le défunt, même après une certaine élévation, n'a pas forcément encore atteint. Nous sommes toujours aidés et accompagnés par une équipe de guides et d'anges. Souvent, on réalise leur existence à la mort d'un proche en associant leur présence à celle du défunt. Bien que les défunts nous aident, il faut, à mon avis, éviter de les associer à ce rôle de guide ou d'ange gardien qui ne correspond pas à leur propre cheminement. Cette idée erronée peut nous empêcher de nous tourner vers nous-mêmes, vers nos propres guides et notre propre potentiel intérieur. En revanche, il est fréquent que les défunts jouent ce rôle d'éveilleur des sens subtils pour un moment, afin de nous inciter en douceur à nous ouvrir à notre sagesse intérieure. Éveilleur plutôt que guide. La nuance est importante. Pour que nos proches défunts veillent sur nous, il faut les avoir laissés partir. Si on les retient, par exemple, en les pleurant sans cesse, en ne prenant pas soin de nous-mêmes, le lien qui perdure est un lien de dépendance émotionnelle alimenté par la tristesse et le manque, et non pas un lien d'amour lucide qui permet à eux, comme à nous, d'évoluer sereinement. Chapitre 17. Tentation. Anne-Marie et Fernand sont un couple d'amoureux tout juste sortis de l'adolescence. Une dispute bénigne qui monte en épingle, une séparation temporaire qui devient définitive, et bientôt chacun poursuit sa vie. Anne-Marie gomme Fernand de son esprit. Lui ne l'oubliera jamais, continuant à parler d'elle à ses proches. La vie les emporte dans des directions différentes. Ils ne se croisent qu'à deux ou trois reprises sans jamais avoir l'occasion de s'adresser la parole. Ils se marient chacun de leur côté, ont des enfants. Les enfants grandissent, deviennent des adultes à leur tour et quittent le foyer. Alors, on réalise que l'existence est passée bien vite finalement. On entre dans une étrange solitude faite de nostalgie et de réminiscence. Les cheveux blanchissent. Vient le temps du bilan. Une sombre contrariété baigne les jours qui filent, et du plus profond d'eux, le souvenir mélancolique d'une belle histoire de jeunesse ressurgit. Avec cette lucidité qui nous touche quand les obstacles que l'on a soi-même mis sur sa route finissent par disparaître, chacun réalise dans son coin que cet amour a sans doute été le seul véritable amour de sa vie. Fernand va s'éteindre avec le regret de ne jamais avoir retrouvé Anne-Marie. Il a parlé d'elle à ses enfants, mais aucun d'eux n'a entrepris de recherche lorsqu'il est tombé malade. Seul, Fernand perd l'envie de lutter. Placé en coma artificiel pendant plusieurs semaines, il ne se réveille pas. Ce n'est qu'un an plus tard qu'Anne-Marie, âgée de 65 ans, apprend la nouvelle. De la plus étrange des façons. Mais avant cela, ma première expérience a eu lieu début avril 2013. Racontez-moi.
Ça a commencé par un bruit de porte qui craque, comme une déchirure. C'était la nuit. Quelque chose est entré par la porte de ma chambre. J'ai entendu ce bruit, et ensuite j'ai perçu une respiration.
« Il y a quelqu'un dans ma chambre, me suis-je dit ?»
J'entendais respirer. Et puis, cette personne est venue se coucher à côté de moi. Oui, j'avais la certitude qu'une personne était dans ma chambre. J'ai senti sa cuisse contre la mienne, vraiment, du bas du genou jusqu'en haut, jusqu'au bassin. C'était d'un froid. Je ne connaissais pas ce froid-là. C'est si spécial.
Quelle a été votre réaction? J'aurais paniqué à votre place.
Franchement, je me posais des questions, mais je n'avais pas peur. C'est d'ailleurs le drame chez moi, me disent mes enfants. Je n'ai jamais peur de rien.
Mais tout de même, qu'avez-vous fait?
Je me demandais qui se couchait à côté de moi. Alors, j'ai légèrement bougé pour essayer de le toucher, et en approchant la main, là, plus rien.
Plus rien, c'est-à-dire?
Il n'y avait plus rien. Plus de sensation, du vide. Je n'entendais plus respirer. Je ne percevais plus aucun mouvement dans ma chambre.
Du coup, vous ne vous êtes pas dit avoir rêvé?
Ah non. J'étais certaine de ne pas avoir rêvé. J'ai le sommeil très sensible, et c'est d'abord ce bruit de porte qui m'a alertée et m'a rendue très attentive, et surtout consciente d'être parfaitement en éveil. C'est à ce moment que j'ai entendu marcher dans la chambre. Il y avait quelqu'un. Non, je ne rêvais pas. Je n'ai pas arrêté de me questionner pendant des semaines, mais je n'ai pas rêvé.
Vous ne saviez pas que Fernand était décédé à ce moment-là?
Pas du tout. Je ne l'ai appris que 6 mois plus tard, en octobre.
Il était mort depuis 4 mois quand vous avez vécu cette expérience?
Oui. Je me suis interrogé longtemps pour savoir ce qui s'était passé.
Comment avez-vous appris que Fernand était décédé?
Par une amie que j'appelle de temps en temps et qui est toujours restée en Normandie. Elle nous connaissait tous les deux. Je l'ai eu au téléphone début octobre 2013 et c'est à ce moment-là qu'elle m'a appris la nouvelle.
Qu'est-ce qui vous a conduite à faire le lien entre cette expérience et la mort de Fernand?
Je ne l'ai pas fait tout de suite. Je me suis bien sûr demandé ce qui m'était arrivé cette nuit-là, mais ça ne m'a pas non plus omnubilé. Ça ne s'était produit qu'une seule fois.
Mais 3 semaines après avoir appris la nouvelle de sa mort,
j'ai vécu une chose complètement incroyable dans le cimetière où il est enterré. Alors là, j'ai fait le rapprochement.
Au moment où Anne-Marie apprend le décès de Fernand, intervenu près d'un an auparavant, tout se déchire en elle. Elle est stupéfiée par le cataclysme émotionnel qui la submerge. Tout d'un coup, c'est fini, c'est trop tard. Explosion de regret. Elle ne peut y croire car soudain, tout meurt en elle. Non, ce n'est pas possible. Contre toute logique, Anne-Marie va s'accrocher à l'espoir que c'est faux, que Fernand n'est pas mort. Non, ce n'est pas vrai. Mais la puissance anesthésiante du déni ne résiste pas éternellement à la triste réalité, sauf à sombrer dans la folie. Alors même si Anne-Marie se refuse près de 3 semaines à accepter ce décès, la raison la conduit à prendre une décision, aller dans le cimetière où est enterré Fernand. Elle veut en avoir le cœur net, quitte à le briser de chagrin. Tout plutôt que cette incertitude. Elle revient en Normandie, le pays de son adolescence, elle qui a fait sa vie à Paris. Elle ne connaît pas ce grand cimetière dans lequel elle pénètre, seule. Elle ignore à quel emplacement se trouve la tombe de Fernand. Hésitante, elle avance dans la vaste allée centrale, puis elle bifurque dans la contre-allée à gauche, revient sur ses pas, hésite. Elle a le souffle court, l'émotion la submerge. Comment trouver la tombe dans ce dédale de milliers de sépultures? Le découragement la gagne, et bientôt la tête lui tourne. Anne-Marie s'arrête et s'immobilise quelques instants. Elle s'impose de respirer à fond pour recouvrer ses esprits. Elle est debout, au milieu de ce large cimetière inconnu, si triste, si seule. L'amour de sa vie. Elle ne sait dans quelle direction le retrouver. Elle se décide à reprendre ses recherches. À peine fait-elle mine d'avancer, qu'elle sent soudain une pression sur les épaules. Interloquée, Anne-Marie fait quelques pas, puis s'arrête à nouveau.
Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Comme si quelqu'un m'avait pris les épaules pour m'arrêter.
Un peu auparavant, Anne-Marie a dépassé un homme se recueillant sur une tombe. Son premier réflexe est de penser que cette personne s'est approchée d'elle sans qu'elle l'entende. Elle se retourne, mais non. L'homme est loin derrière elle.
« Mais il y a quelqu'un, » se dit-elle. Un bruit à côté d'elle, celui d'une personne marchant sur le gravier de l'allée.
Elle tourne brusquement la tête à gauche, puis à droite, se retourne complètement, revient dans sa position, fait encore un tour sur elle-même.
Personne. Mais pourtant. Une respiration. Anne-Marie entend une respiration, pas la sienne. Il y a quelqu'un.
Quelqu'un. Ce bruit de gravier alors qu'elle ne bouge plus. Ce souffle. Stupéfaite, elle reste figée, aux aguets. Seuls, ses yeux paniqués cherchent en tous sens.
Et elle entend rire. J'ai entendu rire, comme si le mouvement de mes yeux provoquait ce rire. C'est si étrange que je me dis, j'ai rêvé. Je vais pour repartir, mais là, je ressens à nouveau deux pressions sur mes épaules, si fortes qu'elles me font me tourner sur le côté gauche. Et là, il m'a prise dans ses bras.
Pardon ?
Il m'a prise dans ses bras. Et il m'a dit à l'oreille, « Je suis là. » Deux fois, il me l'a répété. « Je suis là. »
Mais qui vous prend dans ses bras ? Comment savez-vous qu'il s'agit de quelqu'un ?
C'était sa voix. Sa voix de l'époque où on était ensemble.
« Fernand ?»
Bien sûr, je l'ai reconnu. Je reconnaîtrai cette voix entre mille, même son rire. À cet instant, j'étais avec lui sur un nuage, littéralement. On était enveloppés par un nuage tout autour de nous. Je voyais toujours les tombes devant moi, mais on était tous les deux dans une sorte de brume.
Il vous a prise dans ses bras ? Vous avez vraiment senti ça ? Vous en êtes certaine ?
« Oh oui, il m'a prise dans ses bras et m'a dit « Je suis là ». Ensuite, il m'a saisi la main gauche. À la droite, je tenais une rose que j'avais apportée pour la déposer sur sa tombe. Il m'a pris la main gauche et m'a conduite dans l'allée.
« Il vous a guidé ?»
J'ai compté par la suite. On a marché 17 mètres ensemble, main dans la main. Je le sentais tellement heureux de me tenir la main. Je sentais la pression de sa paume, de ses doigts sur moi. Il avait de grandes mains, Fernand. Et puis, on est arrivé devant l'allée. Il m'a lâché, et j'ai eu l'impression de descendre une marche. Mais il n'y avait pas de marche.
Il n'y avait pas de vraie marche ?
Non. J'ai dû descendre du nuage comme d'une marche. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Et j'ai aperçu sa tombe.
La tombe de Fernand ?
Oui, la sienne.
Et lui ?
Plus rien. Il n'était plus là. Parti. J'étais si ému.
Devant la tombe de Fernand, Anne-Marie se demande si elle vient de rêver. Comment est-elle arrivée précisément devant ? Est-ce vraiment sa tombe ou une nouvelle vision ? Assez désorientée, elle pose la rose sur la stèle, sort son appareil photo de son sac et photographie le monument funéraire à plusieurs reprises, sous plusieurs angles, comme si ses actes concrets lui permettaient de s'assurer de la réalité du moment et d'en conserver un souvenir. En elle se percutent des sensations vertigineuses. Non, elle n'a pas rêvé. Fernand vient de la prendre dans ses bras, de lui parler, elle en est certaine. Indiscutable sensation, cette pression sur ses épaules, sa main dans la sienne. Fernand qui est mort depuis près d'un an. Fernand qui est mort, mais qui vient de lui murmurer « Je suis là ». C'est lui. C'est sa voix. Fernand est là, avec elle. Cette évidence ne se discute pas, ne laisse aucun doute. Partagée entre la tristesse de se trouver devant une tombe dont elle comprend que c'est vraiment celle de Fernand, et la joie bouleversante de savoir qu'il est là, vivant, et près d'elle, Anne-Marie se recueille un moment en sentant vivre en elle une espérance fantastique. N'osant rompre la magie de l'instant, elle va rester dans ce cimetière un long moment avant de se résoudre finalement à reprendre la direction de Paris. Lorsque plus tard dans la journée, elle retrouve son appartement, elle découvre que la batterie de son appareil photo, pourtant rechargée à fond le matin même, est à plat. Aucune photo. Cette batterie inexplicablement déchargée, est-ce liée à la venue de Fernand ? Énergie. Les semaines qui suivent, Anne-Marie, qui a déduit que la visite reçue 6 mois auparavant était celle de Fernand, ne sait que faire. Malgré les questionnements, les doutes, le caractère parfaitement stupéfiant de ce qui lui arrive, elle sait que Fernand est là, près d'elle, pour elle. C'est plus fort que tout, évident. Conséquence de sa vie qui bascule, quelque chose l'appelle en Normandie. Elle veut soudain quitter Paris, où plus rien ne l'oblige à rester, pour s'installer dans le village de Fernand, être près de sa tombe, être avec Fernand, qui ne tarde pas à se manifester à nouveau. Ce jour-là, Anne-Marie est devant son ordinateur en train de répondre à un sondage, quand brusquement, elle est bousculée et sent une énergie pénétrer en elle, dans son corps. C'est Fernand à nouveau. Fernand qui se glisse dans son corps à elle. Elle ne réfléchit pas lorsque cela se produit. Elle comprend à la seconde de quoi il s'agit. D'autant plus que cette intrusion s'accompagne de la voix de Fernand qui résonne en elle. « Je t'aime, mon amour. » Et soudain, lui apparaissent des photos. Dans sa tête, pas des souvenirs, une vision. Comme s'il lui faisait voir un album du passé. Le leur. Des scènes de leur vie ensemble. Cette expérience n'est pas dérangeante, c'est une vraie déclaration. Anne-Marie se voit en compagnie de Fernand, tous les deux jeunes, en voiture, en vacances, comme ce jour où il s'était rendu aux 24 heures du Mans, il y a si longtemps. On était tellement heureux ce week-end-là. Je m'émerveillais de tout, j'étais jeune, je découvrais la vie. Vous voyez ces photos dans votre esprit ? C'est lui qui me les fait voir dans mon esprit. Ces photos, ces visions. Il m'a fait revivre ça tout en me faisant une déclaration d'amour. À la fin, il s'est mis à pleurer dans mon corps. Ce n'est pas moi qui pleurais. Je ne sanglote pas comme ça. C'était lui, en moi. Je ne sais pas trop comment le dire. Mais croyez-moi, tout ça, je l'ai réellement vécu. C'était d'une telle beauté. Anne-Marie a pris sa décision. C'est une femme de tête, et en février 2014, à peine 3 mois après cette rencontre surréaliste dans le cimetière, elle déménage en Normandie. Elle reçoit même les encouragements de ses 2 enfants qui, la voyant dépérir, perdre du poids, l'encouragent dans cette voie. Les expériences se multiplient également dans son nouvel appartement. Elle remarque d'abord des objets qui lui semblent avoir été déplacés. On a toujours un doute en pareil cas. Mais Anne-Marie est très méticuleuse et quand par 3 fois elle s'aperçoit que tel ou tel objet qu'elle est certaine d'avoir laissé à un endroit se retrouve à un autre, l'incertitude n'est plus de mise. On déplace ces objets. Cela la comble de gratitude. C'est forcément Fernand, d'autant qu'à plusieurs reprises, il va lui apparaître. C'est succinct.
toujours trop bref, mais si tangible en même temps. Apparition d'une forme sombre au milieu d'une sorte de nuage, en pleine journée, passant devant la porte ouverte. Silhouette d'une personne toute de noir vêtue et descendant vers elle, la tête sur le côté gauche et la redressant soudain en apercevant Anne-Marie. Encore et toujours cette absence de peur. Une autre fois, alors qu'Anne-Marie s'apprête à entrer dans sa salle de bain, et se retourne vers sa chambre, elle voit soudain Fernand de profil, en transparence, d'un blanc vaporeux. Mais c'est bien lui, ses cheveux noirs, son visage. Et dès qu'il l'aperçoit, il plonge dans l'inconnu, s'efface. Il y a aussi ses visites, la nuit, accompagnées de l'odeur de cigarettes. Fernand s'était mis à fumer après leur rupture. Ses sensations de présence, ses frôlements, ses expériences tactiles, comme cette impression de froid soudaine sur une partie de son corps. Les déplacements d'objets se poursuivent, notamment des pots de fleurs. « Je suis maniaque. Je sais très bien comment j'arrange les choses, et lui les bouge. » Anne-Marie a conscience